On lit dans Lévitique au chapitre 23, on commence au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Puis en verset 4, il dit, Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Puis ensuite, il va donner les fêtes, mais on va lire juste cette partie-là ce soir pour introduire. Puis c'est sûr qu'on voit déjà, il dit, L'Éternel parle à Moïse, il dit de parler aux enfants d'Israël. C'est merveilleux déjà de voir que Dieu parle, qu'il veut se révéler à nous. Puis ces fêtes-là font partie de la révélation que Dieu nous fait de lui-même. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui se révèle. Il veut qu'on le connaisse et il fait en sorte qu'on puisse le connaître en nous donnant des instructions, en nous donnant sa révélation. On peut le connaître, puis même il nous donne sa parole, il nous donne aussi son esprit pour qu'on puisse comprendre sa révélation. C'est certain qu'avant qu'on soit sauvé, on est mort spirituellement, donc on n'a pas contact avec Dieu avant d'être sauvé. Mais du moment qu'on est sauvé, on naît de nouveau spirituellement et notre esprit qui est ravivé, ranimé, vient en contact avec Dieu, puis Dieu nous parle dans sa parole. Donc, on sait que les agnostiques, les autres, ils disent qu'on ne peut pas connaître Dieu d'une façon certaine, mais ce serait vrai si Dieu ne s'était pas révélé à nous d'une façon compréhensible. Mais Dieu s'est révélé à nous d'une façon compréhensible. On voit que Dieu se révèle de trois façons. Il se révèle dans sa création. Donc, il se révèle à nous dans sa création. C'est pour ça qu'il y a nul qui sont, tous sont inexcusables. Parce que on a la révélation, quand même, une révélation de Dieu dans sa création. Si on va dans le psaume 19, on va aller dans le psaume 19 et le verset 1 à 5. Donc, le psaume 19, verset 1 à 5, on va voir que comment Dieu se révèle dans sa création, puis qui fait que, en fait, toute la terre au complet, tous les habitants de la terre, ont quand même cette révélation-là. Dans le verset 1 du chapitre du psaume 19, il nous est dit au chef des chantres, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Puis ainsi de suite. On voit que Dieu se révèle dans sa création. Si on va maintenant dans l'Épître aux Romains, si on va dans l'Épître aux Romains, on voit aussi que il nous dit aussi que Dieu se révèle dans sa création. Attends un petit peu. On va aller dans Romains. Au chapitre 1, les versets 19 à 20. Romains 1, 19 à 20. Dans Romains 1, 19, il nous dit ici, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, et sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc, on voit qu'il y a une certaine révélation de Dieu dans la création, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu. Donc, dans un sens, toute l'humanité est responsable devant Dieu. Il y a aucun qui peut avoir l'excuse de dire on n'a pas pu connaître Dieu, mais c'est certain que dans sa création, si quelqu'un répond à cette révélation-là, c'est que Dieu nous donne un peu de lumière, mais quand on répond à la lumière qu'il nous donne, il nous donne encore plus de lumière. Donc, mais on sait que la création révèle la puissance de Dieu, sa puissance et ses perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité, mais le Golgotha nous révèle son amour. Puis on voit Golgotha dans la parole de Dieu. Mais aussi, il y a une autre façon que Dieu se révèle à nous, c'est dans notre conscience. Il nous a donné une conscience dans Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 11. On voit que Dieu a donné à l'homme la conscience, puis depuis que le péché est entré dans le monde. Donc, Ecclésiaste au chapitre 3 et le verset 11. Il est dit ici, il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc, dans le cœur, déjà, il y a une pensée d'éternité. Puis on voit dans la Genèse au chapitre 2 que l'homme avait une conscience du bien et du mal. Donc, dans le chapitre 2 de la Genèse, si on va au verset, chapitre 2 et le verset 17, il est dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et au chapitre 3, verset 22, il dit, après que l'homme a mangé, après que l'homme a désobéi, puis qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au verset 22, il dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc ici, on voit que l'homme a une conscience du bien et du mal, quoique il ne peut faire le bien, il fait le mal à cause de la nature de péché. Mais on voit cette conscience-là dans le sentiment de culpabilité qu'on a. Puis, je voyais Bernard, il donnait son témoignage dimanche, puis il dit, quand on vient au monde, c'est comme si on a une boule, puis cette boule-là est toujours là, mais quand on se convertit au Seigneur, c'est enlevé, c'est comme le fardeau de notre péché nous suit, puis c'est à cause de notre conscience qu'on a ce fardeau-là du péché. Mais la preuve de ça, ben, c'est qu'on voit que l'homme, quelqu'un a dit que l'homme était une bête religieuse. Mais pourquoi? Même dans la jungle, on essaie d'apaiser un Dieu qu'on a offensé. Puis c'est dans la pensée même de l'homme de réaliser qu'il est un pécheur, puis que tout ce qu'on. Puis même quand on voit là, dans les films de science-fiction, tout ça, quand on parle de l'au-delà, il faut toujours se protéger parce qu'ils vont toujours nous attaquer. C'est à cause de notre sentiment de culpabilité, un peu comme un enfant qui a désobéi, puis quand il voit ses parents arriver, tout de suite, il y a ce sentiment-là de culpabilité, puis il va avoir honte de se présenter devant ses parents. Donc, mais la plus grande révélation de Dieu, c'est certain que c'est dans sa parole. Dans sa parole, on a une plus grande révélation de Dieu, c'est par rapport à sa sainteté, sa justice, mais aussi sa rédemption, le moyen de rédemption qui a pourvu pour nous son amour et son désir de communion avec l'homme. Puis ça, c'est merveilleux de voir que Dieu a un désir de communier avec l'homme. On le voit par le Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament qui dit qu'il faisait ses délices parmi les enfants, les fils de l'homme. Puis là, on voit que le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, bien, ça, on voit le désir de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis on a dans le premier épître de Jean, les versets 1 à 10, on voit comment Jean nous parle de la communion qu'on a avec le Père et avec son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Puis même tout le chapitre nous décrit comment on peut rester en communion avec Dieu, avec le Père et le Fils. Puis en étant en communion avec le Père et le Fils, eh bien, on se retrouve en communion les uns avec les autres à travers le Seigneur Jésus-Christ et à travers son Père. Donc, c'est vraiment pour nous montrer comment la Bible nous révèle un Dieu qui est saint. À cause de notre péché, on ne pourrait pas entrer en contact avec lui. À cause de sa justice, il doit juger le monde. Mais avant de juger le monde, il a pourvu un moyen de rédemption. Puis c'est lui-même qui a payé pour notre rédemption en envoyant son Fils par un seul sacrifice. Car par une seule offrande, il amène à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, Dieu a pourvu au moyen de rédemption, puis il nous le révèle pour qu'on puisse entrer dans cette rédemption-là. Il nous révèle son amour aussi, que Dieu est amour. On voit dans la parole de Dieu, c'est un livre qui s'adresse à nous, qui nous révèle l'amour de Dieu. Il dit dans Romains que, car Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais aussi, il nous révèle son désir de communion avec nous autres, d'entrer en communion avec nous autres. C'est pour ça que ces sept fêtes-là de l'Éternel, c'est vraiment, Dieu nous révèle dans ces sept fêtes-là comment il désire être avec, ici c'est le peuple d'Israël, mais on voit aussi que ces fêtes-là, les quatre premières, s'appliquent aussi à l'Église, mais si on voit c'est vraiment c'est que Dieu veut que son peuple participe avec lui, entre pour participer avec lui dans sa richesse, dans sa bonté, dans sa grâce. Il veut tout nous faire participer là-dedans. Puis Dieu nous révèle son plan prophétique dans les sept fêtes de l'Éternel, dans une série de sept. Vous savez, nous autres, on parle de douzaines, souvent on parle de douzaines, mais dans la parole de Dieu, c'est des septaines. On voit que c'est des séries de sept. Puis on sait que le 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de Dieu. Mais Dieu, lui, il nous révèle son plan prophétique dans ces sept fêtes-là. On va voir ça en avançant dans ces fêtes-là. Mais ce n'est pas la seule série de sept que Dieu utilise pour révéler son plan prophétique. On voit qu'il y a les sept paraboles du royaume, par exemple, dans Matthieu 13, il nous révèle encore son plan prophétique. Et aussi les sept églises de l'Asie mineure dans l'Apocalypse, les chapitres 2 et 3, qui nous révèlent aussi un peu comme il nous fait un panorama de l'histoire de l'Église à travers sept époques qui sont représentées par ces sept églises-là qu'on a vues quand on a étudié l'Apocalypse. Mais aussi les 70 semaines d'années de Daniel, dans Daniel 9, où il nous parle c'est Israël depuis le retour de la captivité jusqu'à ce que le Messie vienne, puis à la fin de la 69e semaine, le Messie est retranché et il reste une autre semaine d'année qui est 7 ans pour la tribulation qu'on a vue quand on a regardé l'Apocalypse qui sert, c'est le temps de trouble de Jacob où Dieu amène son peuple le préparer à la repentance et de pouvoir recevoir son Messie, puis ainsi il y aura un tiers d'Israël qui seront restés à la fin, qui seront tous sauvés. On a vu ça aussi, ça c'est important. Mais dans les paraboles du royaume, dans Matthieu 13, on voit qu'il y a la parabole du semeur, puis c'est l'œuvre qui est débutée par le Seigneur Jésus, par le semeur qui sème une bonne semence. Ensuite de ça, les trois autres livret, le grain de sénévé et le levain, ben c'est l'opposition à l'œuvre que le Seigneur Jésus a commencée. Livret, ben c'est le faux qui est mélangé avec le vrai. Puis on est au courant de ça, mais il y a ceux qui se disent chrétiens qui ne le sont pas vraiment. Ils sont mélangés avec les vrais. Puis ça, c'est Satan qui il sème une semence de livret. Il y a le grain de sénévé. Le grain de sénévé qui, lui, nous parle d'une croissance exagérée. Puis dans cette croissance-là exagérée, un grand arbre où les oiseaux du ciel viennent nicher. Puis on sait que dans la parole de Dieu, les oiseaux, ils nous parlent dans différents endroits. C'est des esprits malins, c'est qui viennent s'abriter dans l'arbre parce qu'à cause de sa grandeur. Il y a le levain qui, lui, nous parle de la corruption doctrinale parce que il y a du levain qui est introduit par une femme dans trois mesures de farine. Donc, on sait que la doctrine se tient sur trois colonnes. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, l'autorité de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, puis l'évangile. Paul dit, si vous savez un autre Jésus, un autre évangile, ça c'est la corruption doctrinale. Mais les trois dernière parabole du royaume, il nous parle en dépit de l'opposition. On voit que Dieu arrive quand même à son but, puis il rejoint les trois groupes de la société qu'on connaît selon la parole de Dieu. Dans Corinthiens 10, 32, il dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ça c'est les nations, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Donc la parole de Dieu voit l'humanité dans ces trois groupes-là, les nations, Israël et l'Église de Dieu. C'est pour ça que le trésor caché dans les trois dernières paraboles, ben, c'est que ça concerne Israël, le trésor que Dieu trouve dans son champ. Et la perle de grand prix, ça représente l'Église. Puis le filet, ben, ça représente les nations. Donc, à la fin, Dieu va avoir son trésor caché, il va avoir sa perle de grand prix, puis il va avoir aussi le filet. Dans le filet, il va avoir les nations qui vont entrer avec Israël dans le millénium. Les sept églises de l'Asie mineure, ben, on sait que ça décrit l'histoire de l'Église. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais on voit quand même, si on regarde l'Église, l'histoire de l'Église, elle se divise en sept étapes, en sept périodes. Puis on voit que en général, on ne parle pas d'une Église en particulier, mais en général, l'histoire de l'Église, on voit que ça fonctionne avec ce qui est les évaluations qui sont données par le Seigneur, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, ça s'accorde avec qu'est-ce qu'il décrit de ces églises-là, avec les avertissements qu'il leur redonne. Les 70 semaines de Daniel, ben, c'est l'histoire d'Israël du retour, partir du retour de la captivité à Babylone, depuis qu'il y a eu l'ordre de rebâtir Jérusalem, il y a 69 semaines. Puis à la fin de la 69e semaine d'année, puis ça, c'est vraiment 490 ans. Mais il y a 483 ans d'accompli. Mais depuis que le Messie a été retranché à la fin de la 69e semaine, eh bien maintenant, il y a eu une parenthèse. C'est comme si l'horloge prophétique s'était arrêtée et c'est la période de l'Église. Mais aussitôt que l'Église est enlevée, on voit que l'horloge prophétique se remet en marche et il reste 7 années pour arriver à 490 ans. Une semaine, là, Daniel nous parle de la dernière semaine de Daniel, qui va se terminer par la restauration d'Israël pour recevoir son Messie, puis qui vont être introduits ensuite dans le royaume millénaire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est cette fête de l'Éternel, c'est Dieu qui, comme un berger, rassemble ses brebis pour les nourrir et les protéger et partager ses richesses avec eux. On voit ça quand Dieu appelait Israël à venir à Jérusalem. Jérusalem, c'était l'endroit où il avait placé son nom, puis il y avait le temple qui était là, c'est là qu'on faisait les fêtes. Eh bien, c'était un temps de réjouissance avec leur Dieu. Ils venaient participer, Dieu les invitait à venir participer avec lui dans on va voir que c'était dans des temps de moisson, c'était dans des temps où il y avait l'abondance, puis c'est un temps de réjouissance aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des fêtes dans la religion quand on était jeune qui étaient célébrées. Aujourd'hui, c'est moins, mais c'était quand même. Il y a une chose avec ces fêtes-là qu'on faisait dans la religion. C'était quand même morne, ces fêtes-là. C'était des fêtes qui étaient un peu mornes, mais les fêtes de l'Éternel, c'était des saintes convocations, puis c'était joyeux. Quand je suis allé à Jérusalem, c'était le sabbat, puis je voyais que les jeunes, ils ont même des jouets pour jouer le jour du sabbat, puis c'était un temps de réjouissance. Ça m'a frappé parce que je me disais, c'est pas comme ça, nous autres, quand on avait les fêtes religieuses. Mais dans les fêtes religieuses, c'était un temps de réjouissance où ils se retrouvaient, imaginez comment les Israélites d'un peu partout se retrouvaient tous à Jérusalem dans la présence de Dieu pour se réjouir ensemble, puis dans l'abondance. Il n'y avait pas d'indigents, il y avait de l'abondance, c'était un temps de moisson et c'était un temps où on avait de l'abondance pour se réjouir ensemble. Mais il y a seulement le jour des expiations. Le jour des expiations qu'on va voir, c'était un temps où il devait s'humilier. Il devait être triste parce que ça représente, comme on va le voir, ça représente la repentance d'Israël. Ça représente le fait qu'ils reconnaissent leurs péchés, qu'ils s'humilient devant Dieu, pour que Dieu puisse expier leurs péchés, qu'il puisse les sauver. Puis ça représente quand un jour le jour des expiations va être vraiment arrivé, c'est quand ils vont reconnaître qu'ils ont tuer leur Messie et qui vont me voir, comme il dit, me verront celui qu'ils ont percé, pleureront, là, ils vont pleurer, pleureront sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc, ces fêtes, mais ces fêtes-là étaient pendant l'abondance des moissons, puis tous pouvaient participer dans cette abondance-là, même l'indigent, la veuve, l'orphelin, l'indigent, puis même l'étranger. Il devait, tout le monde, on voit dans le verset 22 du chapitre 23 de Lévitique, il est dit ici, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. On se souvient quand Ruth, la Moabite, est revenue à Bethléem, Juda, au temps de la moisson des orges, qui représente le temps de la Pâque, eh bien, elle était étrangère, mais Boaz, il lui avait pourvu, elle pouvait venir dans le champ de Boaz pour glaner et ramasser des épis pour participer, parce que c'était un temps de bénédiction. Boaz, c'était des moissonneurs qui moissonnaient, puis il lui a donné, puis même, on voit que Boaz l'a même invité à devenir sa femme, puis elle a participé à toute l'abondance de Boaz, toute sa richesse qu'il avait, elle a participé. Mais c'est ça, comme j'ai dit, quand j'étais en Israël, j'étais surpris de voir que le sabbat, c'était un temps de réjouissance. Mais dans Jérémie, au chapitre 7, au verset 34, vous n'avez pas besoin de tourner, je vais vous le lire, il dit, « Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance, les cris d'allégresse, les chants de la fiancée et les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera un désert. » Ça, c'est un jugement. Mais autrement, quand ils étaient dans l'obéissance au Seigneur, eh bien, c'était un temps joyeux. C'était joyeux de la présence de Dieu. Donc, Dieu convoquait tout son peuple à se rassembler 3 fois par année à Jérusalem. C'était les hommes qui devaient se rassembler. Mais on voit aussi que les femmes pouvaient aller aussi, mais au moins, il fallait que les hommes y allent. On sait que quand Elkanah allait aux fêtes, eh bien, Penina allait, puis Anna allait aussi avec lui. Mais au moins, il fallait que les hommes se rassemblent 3 fois par année à Jérusalem. Quand on voit dans Exode, au verset, dans l'Exode 23, si on va dans Exode 23, au verset 14 et le verset 17, donc Exode 23, verset 14 et le verset 17. C'est dit 3 fois, au verset 14 d'Exode 23, 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épices. Donc, c'est la fête des pains sans levain avec la Pâque. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte et on ne se présentera point à vide devant ma face. Le verset 17, il dit, 3 fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Donc, on voit ici que c'était 3 fois par année. Si on va dans Deutéronome, on va encore au chapitre 16. Deutéronome au chapitre 16 et les versets 16 à 17. Voyez-vous, au chapitre 16, les versets 16 à 17, 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain. Donc, c'est le premier groupe des 3 fêtes, la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Puis ensuite, et à la fête sans levain, à la fête des semaines. La fête des semaines, elle était seule. C'est la fête de la Pentecôte. On appelle la fête des semaines parce que c'était 7 semaines après le groupe de 3 premières fêtes. Et ensuite, et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Voyez-vous, il parle de l'abondance. Il venait avec l'abondance. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. On va aller maintenant dans 2 Chroniques. On voit que dans 2 Chroniques, on voit que c'est ce qui était pratiqué Deux Chroniques, le chapitre 8. Deux Chroniques au chapitre 8. Et les versets 12 à 13. Deux Chroniques 8, 12 à 13. Il dit, alors Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant le portique. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes 3 fois par année à la fête des pains sans levain. Ça représente le groupe des 3 premières fêtes, la Pâque, les pains sans levain, les prémices. Ensuite de ça, à la fête des semaines et qui était seule et à la fête des tabernacles qui comprenait le jour des trompettes, le jour de l'expiation et aussi la fête des tabernacles. Donc, on voit que c'est ce qui se pratiquait parce que c'était selon les instructions. Mais, puis même, Dieu leur faisait des promesses pour qu'ils soient en paix, qu'ils soient tranquilles pendant qu'ils allaient à Jérusalem 3 fois par année. Dieu leur avait fait des promesses. On va aller dans Exode au chapitre 34. Parce que c'est important qu'on voit ça. On voit le parallèle pour nous autres aussi. On va le regarder. Mais dans l'Exode, au chapitre 34, Dieu leur avait fait des promesses parce que, vous savez, ils partaient, ils laissaient leur tribu, ils laissaient leur village, leur maison pour aller à Jérusalem. Puis Dieu leur dit dans l'Exode 34, les versets 23 à 24, regardez qu'est-ce que Dieu leur avait dit. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël, car je chasserai les nations devant toi. Et j'étendrai tes frontières et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Donc Dieu leur avait promis que les personnes viendraient convoiter leur pays. Personne ne viendrait leur faire la guerre pendant qu'ils iraient. Donc ils étaient en paix en sachant qu'ils pouvaient aller à Jérusalem en toute sécurité. Dieu les préserverait pour pas qu'ils s'inquiètent parce qu'ils voulaient que ce soit un temps où ils pouvaient communier avec lui sans s'inquiéter des choses. Puis nous, on voit dans Philippiens 4, 6, 7, il nous dit, nous autres aussi, on a besoin d'être en paix par rapport à quand on adore le Seigneur, quand on prend le temps avec le Seigneur. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voyez-vous, si on est inquiète de quelque chose, ben, nos cœurs et nos pensées sont pas sur le Seigneur, sont pas sur le Seigneur. Donc, pour qu'on puisse communier avec lui et passer un temps avec lui, ben, nos inquiétudes, qu'est-ce qu'on fait? On les amène au pied de la croix par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et c'est là que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, le Seigneur avait tout pourvu pour qu'ils puissent venir. Ça leur enlevait toute excuse de venir. Il ne faut pas dire, comme on sait que le Seigneur a dit qu'il avait invité des gens à un repas, puis l'un qui dit, ben là, j'ai acheté des paires de bœufs, puis il faut que j'aille les essayer. Un autre, il dit, ben je viens de me marier, puis on a tous je viens d'acheter un champ. Ben, le Seigneur, il dit, non, non, quand je t'appelle à venir dans ma présence, là, mets tout ça de côté, puis viens dans ma présence pour communier, parce que c'est insultant qu'un Dieu si grand nous invite à venir dans sa présence, puis qu'on dit non, ben là, j'ai quelque chose de plus important. Puis le Seigneur, il veut vraiment que son peuple, il voulait qu'il vienne 3 fois par année, venir dans sa présence pour se réjouir avec lui, puis communier avec lui. Vous savez, quand on passe, d'autres, on a des conférences, quand on va dans des conférences, puis on se rencontre comme. En fin de semaine, on est allé avec Bernard et Jocelyne ici de Saint-Andémont. On est allé à New Richmond. On a eu vraiment un bon temps de communion ensemble. On a eu un repas ensemble samedi soir. On a eu les réunions du dimanche. Puis ensuite, on est allé à New Carlisle. On était vraiment encouragés. Puis ça nous encourage. Puis le Seigneur, c'est ce qu'il voulait que son peuple vienne dans sa présence. Puis dans l'abondance des récoltes, participer avec lui dans toutes ces choses-là, dans ses richesses. Il veut partager ses richesses avec nous. Donc, on voit que les fêtes, on va regarder les fêtes, on a la Pâque, le premier groupe de 3 fêtes. Il y a la Pâque, les pains sans levain et la fête des prémices. Ça, c'était la première fois dans l'année où ils devaient venir à Jérusalem pour se réjouir dans la présence de Dieu. Puis c'était le temps de la moisson des orges. C'était au temps de la moisson des orges. C'est pour ça que quand Ruth est revenue avec Naomi à Bethléem Juda, c'était la moisson des orges. Donc, c'était au temps de ces trois fêtes-là qu'elle était revenue. Puis ça nous parle, la Pâque, ça nous parle de notre salut, hein, l'offrande qui était faite pour notre péché. Quand on s'éloigne de Dieu, on oublie que nos péchés, nos anciens péchés sont pardonnés. Mais Dieu, il voulait lui faire rappeler que nos péchés sont pardonnés. Donc, le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, il y avait la Pâque. C'est là qu'on immolait l'agneau pascal, comme ils avaient fait en Égypte. On voit dans l'Exode au chapitre 12, quand en Égypte, ils avaient immolé un agneau pour mettre le sang sur le linteau et sur les poteaux de la porte, puis qu'ils avaient échappé au jugement. Dieu les avait rachetés de l'Égypte parce que l'Égypte a été jugée, mais eux n'avaient pas reçu le jugement dans leur premier-né. Puis Dieu les a fait sortir de cette même nuit-là, il les a fait sortir de l'Égypte. Mais le 15e jour, du 15e jour au 21e jour, c'est la fête des pains sans levain. Aussitôt que la fête de la Pâque était célébrée, on entrait tout de suite dans la fête des pains sans levain qui durait sept jours. Il y a deux fêtes qui durent 7 jours. On sait que c'est une période parfaite, puis ça représente la fête des pains sans levain, ça représente notre vie chrétienne après qu'on a été racheté de notre vaine manière de vivre, qu'on avait hérité de nos pères. Maintenant, on est racheté pour vivre une vie nouvelle. Puis, c'est ça que ça représentait, la fête des pains sans levain. Sans levain, on devait examiner les maisons pour enlever le levain qui représente le péché. Donc, on devait enlever pour c'est ça qu'on doit passer notre vie chrétienne, c'est la fête des pains sans levain. C'est que toujours on confesse notre péché, puis on est sanctifié, séparé du péché pour pouvoir être en communion avec Dieu pour la période de notre vie ici sur la terre. Puis, le 17e jour du premier mois, donc dans cette fête-là, il y avait l'agneau qui était immolé le 14e jour, le 15e jour, puis le 17e jour du premier mois, c'était le lendemain du sabbat, c'était la fête des prémices. Puis on voit que la fête des prémices représente le Seigneur Jésus-Christ qui, puis on va voir ça aussi, le Seigneur Jésus a accompli parfaitement ces fêtes-là, que quand il a été immolé, c'était quand la Pâque était immolée, quand il a été ressuscité, c'était la fête des prémices. Donc, le Seigneur a accompli en son temps son œuvre. Toutes ces choses-là préfiguraient son œuvre qu'il allait accomplir. Puis, il les a accomplies, lui, quand il s'est offert lui-même, selon ces fêtes-là. Donc, ça, c'est le premier groupe de trois. C'est la Pâque, les pains sans levain. Et la fête des prémices qu'on va voir plus en détail quand on va arriver là. Mais c'était pas avant la Pâque, c'était pas le premier mois de l'année, mais il est devenu le premier mois de l'année quand ils ont sorti de l'Égypte. Ça représente pour nous, quand on est né de nouveau, ben c'est une vie nouvelle qui commence. Puis ça, c'est comme pour eux autres, ça devenait le début de l'année. Parce qu'avant ça ne l'était pas le début de l'année, mais ça l'est devenu au moment où la Pâque a été immolée. Cette journée-là est devenue, ce mois-là est devenu le premier mois de l'année pour nous. Puis ça représente pour nous aussi le début de la vie, de notre vie spirituelle. C'est là que notre vie a commencé quand on a été sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. On va voir que les quatre premières fêtes, ils s'appliquent à Israël. Mais aussi s'applique aussi à l'Église. D'une façon spirituelle, ces fêtes-là s'appliquent aussi à l'Église, jusqu'à la Pentecôte. Puis la Pentecôte, c'était Pentecôte, ça veut Pentée, ça veut dire 50. Donc, c'est 50 jours après la fête, après les fêtes, la première groupe de fêtes. 50 jours après, c'est-à-dire 7 sabbats et le lendemain. Donc, 7 sabbats, c'était 49 jours plus un jour. Donc, c'était le lendemain du sabbat qui faisait la fête de la Pentecôte. Puis, ensuite de ça, on arrive dans le troisième groupe de fêtes. 50 jours après, ils devaient revenir à Jérusalem pour la Pentecôte, mais les trois dernières fêtes, eux, ils s'appliquent seulement à Israël. Puis, on va voir comment c'était dans le temps des labours. La Pentecôte, elle était au temps de la moisson du blé. Puis, mais les trois autres fêtes, c'était pendant les labours. C'était le premier jour du septième mois. Le premier jour du septième mois, donc les 6 premiers mois, on avait les premières fêtes. Mais maintenant, le premier jour du septième mois, ça durait un jour. Les fêtes durent un jour, sauf la fête des pains sans levain, qui est 7 jours, puis la fête des tabernacles. Il y a deux fêtes qui durent 7 jours. Donc, ça, c'était la troisième fois qu'ils venaient à Jérusalem. Puis ça, c'est le nouvel an civil. Le septième mois, c'est le nouvel an civil. Il y avait la fête, premièrement, des trompettes, qui était le premier jour du septième mois. La fête des trompettes, ça durait un jour. Ensuite de ça, le dixième jour du septième mois, c'était le jour des expiations. C'est celui où ils devaient s'humilier devant Dieu. Puis ça durait un jour aussi. Mais ensuite venait la fête des tabernacles, qui est le 15e jour du 15e jour au 22e jour du septième mois. Donc, c'était une période de 7 jours pendant qu'on fêtait la fête des tabernacles. Les trompettes, on va voir que ça représente que Dieu rassemble son peuple. C'est encore à venir. Dieu va rassembler son peuple au son des trompettes. Quand on sonnait les trompettes, c'était pour rassembler le peuple dans le désert. Mais à partir de ça, le jour des expiations, c'est quand finalement Israël vont pouvoir reconnaître leur Messie qu'ils ont crucifié, mais en même temps vont reconnaître que c'est pour eux qu'il a été crucifié. Il a été crucifié pour leur péché. Puis quand ils vont être restaurés à leur Messie, à leur Dieu, eh bien maintenant ils vont fêter cette fête-là des tabernacles. Les tabernacles, ça veut dire des tentes. Et c'est un rappel que Israël a vécu dans des tentes. Puis on voit dans le désert, quand ils ont sorti d'Israël, pardon, d'Égypte, quand ils ont sorti d'Égypte, ils ont marché dans le désert. Dieu était au milieu d'eux, dans le tabernacle, et eux, ils avaient toutes leurs tentes tout autour du tabernacle. Puis c'est un peu qu'il nous dit aussi que la fête des tabernacles, c'était pour leur rappeler qu'ils ont vécu dans des tentes avec Dieu. Puis dans cette fête-là, ils devaient se faire des tentes avec des rameaux d'arbres, ils devaient des branches d'arbres, ils devaient se faire des tentes pour demeurer, comme pour se rappeler qu'ils ont demeuré dans des tentes dans le désert, mais aussi ça pointe vers le millénium, quand Dieu va être au milieu d'eux, puis ils vont demeurer avec lui au milieu d'eux. Donc on voit que les quatre premières ont un accomplissement pour Israël. Et aussi un accomplissement pour l'Église, qu'on va voir quand on va regarder ça, tandis que les trois dernières fêtes ont un accomplissement futur pour Israël. Ils ont un accomplissement dans ce temps-là, mais ils vont voir, ils avaient en vue un accomplissement futur pour Israël qui va venir. La Pâque, ben c'est la Pâque, ça veut dire la rédemption au prix du sang. Ils ont été délivrés de l'esclavage. Les pains sans levain, c'est la vie de délivrance. Mais comment est-ce qu'on vit cette vie de délivrance-là? Ben, ils se nourrissaient de l'agneau en se séparant du mal, en mangeant des pains sans levain. Ils examinaient la maison pour tout enlever le levain de la maison, afin de se nourrir de l'agneau et aussi des pains qui étaient sans levain. Ces deux fêtes-là, la Pâque, puis la fête des pains sans levain était tellement étroitement liée que tu n'avais pas une sans l'autre. Puis souvent, quand on parle dans la parole, dans le Nouveau Testament, on nous parle de la fête des pains sans levain, on sait que ça incluait la Pâque. Puis, ou la Pâque, quand il nous dit la Pâque, ça incluait Ces deux faits-là étaient liés étroitement, comme notre salut est vraiment lié avec notre marche. Parce que du moment qu'on est sauvé, on a été racheté de notre vaine manière de vivre qu'on avait hérité de nos pères. Puis au moment du salut, on commence une nouvelle vie. Puis c'est ce qu'on exprime dans le baptême, quand on exprime qu'on est mort avec Christ, on est enseveli. Puis quand on sort de l'eau, c'est pour vivre en nouveauté de vie. Des fois, moi, je dis ça quand quelqu'un sort de la tank et qui marche sur le plancher, il fait des empreintes, surtout quand il y a du tapis, ça fait des empreintes sur le tapis, des pieds qui sont trempés. Puis moi, je dis, ces empreintes-là vont être vues jusque dans l'éternité. C'est toute une nouvelle vie qui commence. C'est une vie pour glorifier le Seigneur. Puis c'est ça que ça représente ici, la fête des pains sans levain. Mais on voit que les prémices, c'était le 17e jour. La Pâque était le 14e jour entre les deux soirs, au crépuscule. Et la fête des pains sans levain qui commençait aussitôt. Mais durant la fête des pains sans levain, ben, il y avait la fête des prémices. Puis la fête des prémices représente la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'était les prémices. On prenait des prémices de la récolte. Puis on les présentait devant Dieu, puis ces prémices-là étaient comme une garantie qu'il y aurait une récolte. Parce que là, on montrait les premières germes de la récolte pour démontrer que s'il y avait cette première récolte-là, ces premiers épis-là, c'est qu'il y en aurait toute une récolte qui suivrait. Puis c'est ça, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est les prémices. Parce que sa résurrection à lui nous garantit que nous aussi, on va être dans la résurrection. Christ, comme il nous dit, on va voir ça quand on va l'étudier dans 1 Corinthiens, Christ comme prémisse, puis ceux qui sont à Christ lors de son avènement. Donc, la résurrection de Christ garantit notre résurrection aussi. Puis, comme en Israël, la fête des prémices, on montrait que les premiers épis représentaient le fait qu'il y allait avoir toute une moisson qui s'en venait. La Pentecôte maintenant, la Pentecôte ou la fête des semaines, parce que c'est à cause que c'est 7 semaines, c'est-à-dire 49 jours, puis le lendemain du sabbat qui faisait 50 jours, puis là c'était la moisson du blé. Puis elle était étroitement liée à la fête des prémices. Maintenant c'était la récolte de ce que les prémices avaient garanti. C'était la récolte du blé ici, une abondance, mais qui était lié dans un sens à la fête des prémices. Donc, ces quatre fêtes représentent l'œuvre de rédemption du Dieu trinitaire. Puis, c'est ça qu'on regarde ça un peu, là, en train d'étudier aussi la Trinité. Il y a des gens qui nient la Trinité, mais on voit dans la Trinité que l'œuvre de rédemption, puis l'œuvre qui se fait pour la vie de la nouvelle vie qu'on vit, c'est l'œuvre d'un Dieu trinitaire. Donc un Dieu en trois personnes. C'est Dieu, on participe avec lui. C'est un seul Dieu, mais en trois personnes, chacun dans son rôle, des personnes distinctes, mais qui font un seul Dieu et qui ont chacun un rôle à jouer. On voit que Dieu est pleinement impliqué dans cette œuvre de rédemption-là et aussi dans cette nouvelle vie que nous avons. Donc, la Pâque, ben, vous savez que ça représente l'agneau qui était offert, représente Christ qui s'est offert comme un agneau pour nos péchés, l'agneau pascal. Puis, la fête des pains sans levain, ben, ça représente quoi? Ça représente Christ qui est notre nourriture. Parce que on se nourrissait de l'agneau et on se nourrissait des pains sans levain. Donc, Dieu, le Seigneur Jésus pourvoit à notre nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu, puis l'agneau est la parole de Dieu. Tandis que les prémices, ben, le Père démontre sa satisfaction en ressuscitant le Seigneur Jésus. Donc le Père, en ressuscitant le Seigneur Jésus, démontre qu'il était pleinement satisfait avec l'offrande du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'approbation de Dieu, puis c'est la garantie qu'il nous donne. Parce qu'il est satisfait de l'œuvre de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il nous garantit que nous, maintenant, on va aussi être ressuscités un jour. lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Soit qu'on soit transformé, si on est encore vivant, en un instant, en un clin d'œil, on va revêtir l'incorruptibilité, on va revêtir l'immortalité, mais ceux qui sont décédés en Christ vont ressusciter aussi à cause de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Puis, la Pentecôte, ça représente le Saint-Esprit qui fait la récolte produite par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Comme ce grain de blé qui a été mis en terre, qui meurt, puis qui porte beaucoup de fruits. Le Saint-Esprit ici, qui, à la Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit pour former un seul corps par rapport à l'Église. C'est pour former un seul corps de ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ et qui continuent de rassembler jusqu'au temps où il va être enlevé. L'Église va être enlevée au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ pour être toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est les quatre premières fêtes. Puis après l'enlèvement de l'Église, après l'enlèvement de l'Église, Dieu reprend son œuvre avec Israël. Dieu les a mis de côté pour un temps, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Puis ensuite, Dieu revient. Il y a des gens aujourd'hui qui nient le futur d'Israël, mais la parole de Dieu nous montre que partout dans la parole de Dieu, on voit que Dieu revient avec son peuple. Dieu a fait des promesses, puis il va les exécuter. Les promesses de Dieu sont sans repentance. Il va accomplir parfaitement avec Israël. Ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de futur pour Israël, ben moi, je crois qu'ils lisent leurs livres de théologie plus qu'ils lisent la Bible. Parce que quand on lit la Bible, on ne peut pas manquer le fait qu'il y a un futur pour Israël. Après que l'Église est enlevée, maintenant, on arrive avec le dernier groupe, le dernier des trois groupes de fêtes. Puis celui-là concerne Israël seulement. C'est la fête des trompettes, c'est quoi? Dieu reprend son œuvre avec Israël. Il convoque son peuple. Dieu appelle son peuple à revenir à lui. Puis, en les rassemblant, ben, on arrive au jour des expiations. C'est-à-dire que maintenant, il doit régler la situation, leur situation de péché. Puis là, on sait qu'Israël, en tant qu'individu, peuvent être sauvés aussi bien que nous dans le temps de l'Église. Pas de problème avec ça. Mais la tribulation qui vient, c'est appelé le temps de trouble de Jacob. C'est un temps où Dieu, oui, va juger les pécheurs sur la terre, mais aussi il utilise, c'est un temps où il va mettre Israël à l'épreuve par des persécutions qui vont être grandes envers eux autres pour les amener à reconnaître leurs péchés dans leur détresse. Quand ils vont dire, le Seigneur Jésus avait dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Un autre viendra en son propre nom, celui-là vous allez le recevoir. Mais il leur a dit aussi, vous ne me verrez plus avant d'aller à la croix, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Puis c'est la tribulation qui vient sur Israël qui va les amener, parce qu'il va y en avoir les deux tiers qui vont être détruits durant cette tribulation-là, mais un tiers qui va rester, ce tiers-là vont réaliser à un moment donné dans leur détresse qu'ils ont vraiment besoin de leur Messie, puis vont crier à Dieu qui leur donne leur Messie, parce qu'il nous dit aussi que si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Ça veut dire que si le Messie n'intervenait pas à ce moment-là, finalement, Satan réussirait à détruire complètement le peuple de Dieu. Parce que ça fait longtemps qu'il essaie, mais là, il réussirait. Mais c'est l'intervention du Seigneur Jésus-Christ, leur Messie, qui va les sauver. Puis, mais il faut, premièrement, qu'il parle à leur cœur. Il va les amener au désert, comme il nous dit. Il va parler à leur cœur, comme une femme qui a été répudiée. Il va les parler à leur cœur, puis il va les rappeler à lui. Pour qu'ils viennent se retrouver à lui. C'est pour ça que le jour des expiations, Israël reconnaît son péché et s'humilie devant son Dieu pour être réconcilié avec son Dieu. On va voir ça plus en détail quand on va avancer. Pourquoi? Ben, pour ensuite, quand ils vont être réconciliés, ils vont entrer dans la fête des tabernacles. Puis ils vont, ça c'est le règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ. Leur roi, David, leur grand roi, il va leur donner la gloire. Puis ça va être une gloire merveilleuse. Israël vont être dans la gloire plus qu'ils n'ont jamais été, même du temps de David, même du temps de Salomon. Ça va être encore plus grand parce que c'est le plus grand fils de David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Leur Messie va régner à Jérusalem. Il va régner sur eux, puis aussi sur les nations. Mais Israël va être la tête des nations à ce moment-là. Donc, mais après les 7 jours de la fête des tabernacles, on arrive au 8e jour dans Lévitique au chapitre 23, au verset 36. Il est dit ici, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc ici, on a le 8e jour. Donc après avoir gardé la fête pendant 7 jours, ils entrent dans un 8e jour. Ça, c'est mentionné comme un sabbat. Ça, c'est l'entrée dans l'état éternel. Parce qu'après le millénium, il y a l'état éternel. On rentre dans l'éternité on a vu dans l'Apocalypse 21, quand on a étudié l'Apocalypse 21 au verset 1 à 6. Il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Donc ça, c'est, on entre maintenant dans l'état éternel. Je n'ai pas réalisé, mais là, c'est ça, on est rendu à 8 heures. Puis, d'habitude, on a un temps de questions ou de commentaires. Mais là, je ne sais pas si notre temps est passé, je n'ai pas réalisé. Mais je vous donne quand même votre micro. Puis, vous pouvez remettre votre micro. Puis, si vous avez des commentaires, on peut peut-être passer un petit temps court parce que on veut rester fidèle à notre horaire. Mais si vous avez un commentaire ou une question, on va le faire maintenant.
Alors, tu as mentionné que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, que c'est le chiffre de la révélation de Dieu aussi. Est-ce qu'on peut dire que les 7 paroles du Seigneur Jésus à la croix, est-ce que c'est une révélation également?
Oui, ben c'est ça, on voit toujours, tu sais, comme on disait, on a des douzaines, nous autres, mais le Seigneur, lui, c'est des septaines. Puis c'est vrai, oui, les paroles du Seigneur Jésus à la croix, ça révèle encore le caractère de Dieu. Oui.
Je pense que ça révèle particulièrement l'œuvre de rédemption, je pense.
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Dieu se révèle de même par des séries de 7. Hein. Et son œuvre, lui, il se révèle lui-même et son œuvre. S'il n'y a pas d'autres questions ou de commentaires, la semaine prochaine, je vais essayer de me rappeler pour vous laisser plus de temps. Mais on va terminer par un mot de prière pour ceux qui doivent partir. Mais s'il y en a qui veulent rester et veulent parler plus, on en parlera plus. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ce temps qu'on a pu avoir dans ta parole. Merci pour tous ceux qui sont revenus, Seigneur. On te prie pour s'il y en a qui n'ont pas reçu l'invitation, Seigneur, qu'on puisse les rejoindre. Puis on te remercie d'avoir été avec nous ce soir, Seigneur, encore une fois. Et on te rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
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 Une question, Gilbert.
Oui. Voilà.
Excusez. C'est ton frère, Gilbert. Je me demandais pourquoi dans le millénium, il allait fêter les tabernacles, la fête des tabernacles, au lieu de, disons, la Pâque. Parce que, disons, toutes les nations vont venir, puis ils vont fêter le tabernacle, hein? La fête des
Ben oui.
tabernacles, hein?
Ouais, c'est ça, il est.
Pourquoi
Ouais,
il a
il...
choisi cette fête-là? Parce que c'est comme ça rappelait Israël était libéré de l'Égypte.
Ouais, mais c'est la
Là,
rédemption.
c'est...
Mais
OK.
quand Israël a été libéré de l'Égypte, puis qu'ils ont vécu avec lui dans le désert, c'était dans la rédemption, parce qu'il avait été racheté de l'esclavage de l'Égypte. Mais c'est ça, dans son plan prophétique, c'est qu'il revient avec eux autres, mais à travers eux autres, dans le millénium, il va rejoindre aussi les nations.
Oui, c'est ça.
Ouais. Mais il va avoir, dans le millénium, il va avoir des sacrifices encore, puis il va avoir encore des fêtes, on dirait, dans le millénium. Pour que, c'est un peu, on se demande pourquoi, parce que maintenant, avec la réalité qu'on a eue en Christ, qui s'est offert comme l'agneau pascal, et qu'il a, il y a la fête des pains sans levain, on la vit dans les prémices du Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, je crois qu'est-ce qui peut expliquer pourquoi qu'on revient à ces choses-là? C'est que maintenant, avec la réalité, ils vont pouvoir comprendre encore qu'est-ce que ça voulait dire. Parce que Israël, ils l'ont fait, mais des fois, ils l'ont fait sans comprendre. C'est qu'est-ce que ça représentait. Hein? Puis même dans le Nouveau Testament, on voit qu'ils n'appellent même plus les fêtes de l'Éternel, c'est les fêtes des Juifs. Puis, mais ils ne comprenaient pas, parce que le Seigneur l'a accompli pendant qu'il était dans ces fêtes-là. Puis ils n'ont pas compris. Mais quand il va revenir dans le millénium, puis il semble que c'est parce que là maintenant, il va pouvoir leur dire, regardez, qu'est-ce que ça voulait dire. Avec la réalité, ils vont pouvoir comprendre qu'est-ce que l'enseignement était dans ces fêtes-là, dans tous les sacrifices.
J'ai déjà assisté naturellement à l'église avec nos parents à des fêtes là, comme ça religieuses. Appelait ça des processions.
Oui.
Et puis, ce que je me souviens de ça me donnait comme l'effet que j'étais perdu,
OK.
qu'on était condamné, n'était pas joyeux, n'était triste. Et quand tu parles des fêtes dans l'Ancien Testament, ben, c'est ça complètement contraire. Hein?
Oui, c'est ça. Je me réjouirai en l'éternel. Hein? Il a mis dans mon cœur un chant nouveau parce que la rédemption, c'est joyeux. Mais c'est sûr que dans la religion, il n'y avait pas, c'était encore. Puis on va voir ça la semaine prochaine parce que là, il commence en parlant des sabbats. Mais les sabbats, qu'est-ce que ça représentait? Ben, c'est le contraire des religions d'œuvre. Les religions qui nous disent qu'il faut faire des œuvres pour être sauvé. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a rien de joyeux là-dedans, parce que c'est un fardeau, c'est un esclavage, tandis qu'on est libéré. Puis quand on est libéré de ces œuvres mortes-là, puis on est au profit de la rédemption de Dieu, pas par nos œuvres, mais par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Le moment où on était sauvé, on était rempli de joie. Hein? Ça nous donne de la joie. Il y a quelqu'un qui me disait à un moment donné, il dit, tu sais, que la joie que tu as parlé, là, je ne l'ai pas eue, cette joie-là. Ben, j'ai dit, si tu savais pour sûr que tes péchés sont tous pardonnés, puis que tu vas être au ciel pour l'éternité, serais-tu joyeux? Il dit, oui, ben, je dis, attends-toi pas de l'avoir avant d'avoir l'assurance de ça. Attends-toi pas d'avoir cette joie-là avant d'avoir l'assurance, mais le moment où on a cette assurance-là, on a la joie qui nous vient parce que c'est merveilleux de savoir nos péchés pardonnés puis qu'on va être avec le Seigneur pour l'éternité.
Nous avons Dieu comme Père aujourd'hui et non comme juge.
Exactement, oui. Ouais, c'est ça qu'en passant à l'Apocalypse, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Puis les trois premiers chapitres au début, c'est pas la même révélation que dans le reste des chapitres. Parce que dans le premier chapitre, il se révèle à ses églises, puis il dit à celui qui nous a lavés dans son sang, puis qui a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Tandis que dans le chapitre 19, on voit que maintenant, il vient avec un vêtement teinté de sang, qui a été Puis c'est quoi le sang-là? Ben, c'est le sang de ceux qui ont refusé. Nous, on est lavés dans le sang de Christ, mais eux, c'est un juge. Il vient pour faire la guerre, il vient pour juger. Puis son vêtement était du sang de ceux qui ont rejeté. On ne doit pas fouler aux pieds le sang de l'Alliance.
C'est
Ça
vraiment
va
des
être très
paroles.
intéressant, les études à venir.
Ouais.
Va être intéressant quand les fêtes de l'Éternel, je n'avais jamais vu ça au point de vue prophétique. Il y
OK.
a beaucoup.
Oui. Oui, c'est une grande révélation.
Ouais.
Et
Okay.
quand Dieu se
On
révèle,
va suivre.
Ben ça nous cause la joie parce que toute sa personne est pleine de charme. Puis quand on pense, ça révèle l'œuvre qu'il a fait pour nous autres aussi. Puis son désir de partager ses richesses avec nous. C'est un peu comme Rebecca, quand il lui a été offert de devenir l'épouse d'Isaac, ben, en disant oui, elle est entrée dans toutes les bénédictions d'Abraham comme participante à part entière avec Isaac. C'est comme ça, nous autres aussi, qu'on devient l'épouse de Christ. On rentre dans toute la bénédiction qui est en Christ. Il nous dit ça dans Éphésiens 1. Nous avons été bénis en lui. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ.
Merci.
Oui, que le Seigneur vous bénisse.